Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition déjà du 19 mars, à quelques jours du printemps même, peut-être, on parle de demain, printemps.
Je pense c'est journée. Ça, c'est demain, oui.
Ouais, effectivement, en tout cas, par rapport à la date, oui, c'est le printemps, mais par rapport à la température ces derniers jours, c'était quand même assez... Bien heureux encore une fois de vous recevoir ce matin, et encore, quel bonheur d'être entouré des meilleurs, hein? Et qui on appelle les meilleurs? Ben, tout d'abord, Franceline Neuvière, comment allez-vous?
Oui, ça va bien, oui.
Et donc, comme article ce matin?
Oui, ce matin, j'ai un article tiré de la revue Le Bel Âge de mars 2018 qui s'intitule « Comment se protéger des abus ?» Et ça concerne surtout les personnes âgées ou en perte d'autonomie. Mm-hmm. Et puis, le deuxième article, en deuxième partie, sera tiré d'un dossier du journal L'Itinéraire du 1er mars 2018. Ce dossier est « Quel modèle carcéral pour les femmes en 2018 ?» Et je vous lirai entre autres un article sur une alternative au modèle carcéral par Manuel Foglia, donc dans L'Itinéraire du 1er mars 2018.
D'accord, merci, bien intéressant. Et M. Roger Roy.
Alors, bonjour. Alors, je vous parle, moi, de représentants d'organismes d'État. Oui. Je vous présente des représentants de cause ou de mouvement. Mm-hmm. Ce sont des ambassadeurs. Alors, mais je vous parle des vrais ambassadeurs d'État.
D'accord.
La guerre des tweets, d'une part, mais aussi...
Trop de titres.
Oui, les tweets, comme le président Trump.
Oui.
Égal, le président
oui.
Trump, oui. Mais aussi une ambassadrice, celle du mieux vivre, c'est André Lavoie.
Ah,
non, d'accord. Pas André Lavoie qui a écrit le texte.
Non.
Elle, c'est Sylvie Bernier.
Ah.
Un peu plus connue qu'André Lavoie, je crois.
Oui, je crois que oui.
Oui, ouais. Sylvie Bernier, oui.
De mon côté, je vous donne 10 façons de remplacer le sucre dans vos desserts. Hein? Et vous avez sûrement hâte d'entendre ça. on ne sait pas. Pour surtout les diabétiques dans mon cas, moi. Et à quoi servent les probiotiques, le savez-vous?
Ah oui, ça aide...
C'est ça. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Oui, le conduit. On vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors, Madame Franceline, comme premier article.
Oui, comment se protéger des abus? L'avancée en âge peut attirer des gens mal intentionnés, certains n'hésitant pas à profiter de moments de faiblesse pour mettre la main sur le patrimoine d'aînés. Alors, est-ce qu'il y a des gestes à poser pour les empêcher de nuire? Et donc, c'est écrit par Didier Berthe dans la revue Le Bel Âge. Près de 40 000 aînés seraient victimes d'exploitation financière au Québec si on se fie à un rapport dirigé par la docteure Lynn McDonald de l'Université de Toronto. Au total, au Canada, 2,6% des aînés sont la cible de tels abus. Et l'agresseur est généralement loin d'être un inconnu, faisant irruption tout à coup dans la vie de sa victime. Selon la même étude, 8 fois sur 10, il s'agit d'une personne dans l'entourage de l'aîné. Ainsi, l'agresseur le plus fréquent est un enfant ou un petit enfant adulte, 37%, un conjoint ou un ex-conjoint, 22%, un frère ou une sœur, 15%, ou un ami, 8%. Il arrive que cet ami ait gagné progressivement la confiance de sa victime au point d'avoir une emprise sur elle et qu'elle-même en soit consciente mais se sente obligée d'accepter que cet intrus la manipule. Maître Dany Lachance, qui est notaire à Sherbrooke, se souvient d'une dame venue la rencontrer pour préparer son testament. Elle était accompagnée d'un homme. Ce dernier indique à la notaire qu'il l'aide à planifier ses affaires. Il m'a précisé que pour faciliter les choses, elle le nommerait liquidateur de sa succession et lui donnerait un montant intéressant pour rémunérer cette tâche, dit-il. Maître Lachance impose un moment seul à seul avec la dame. Celle-ci finit par lui avouer qu'elle ne voulait pas nommer cet homme comme liquidateur, mais qu'elle se sentait obligée de le faire parce qu'il circulait souvent dans les résidences où elle vivait. « Je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait, elle », témoigne Maître Lachance. Elle m'a répondu que puisqu'il devait la ramener à la résidence, elle allait stresser s'il lui posait des questions dans l'automobile. Finalement, la notaire a ramené elle-même sa cliente à sa résidence et j'ai prévenu la résidence en leur disant de ne plus laisser cet homme agir ainsi chez eux. Comment tout cela avait-il commencé? Cette dame recevait une rente américaine pour son mari décédé, or elle ne savait pas lire l'anglais. L'homme qui lui avait offert de traduire les courriers, il l'avait endormi en quelque sorte. Membre de la famille ou ami sorti de nulle part, comment détecter la personne mal intentionnée ? En 32 ans de carrière, j'ai vu de nombreux cas, mais il n'y a pas de règle absolue, observe Maître Lachance. Celle-ci remarque toutefois que c'est dans les milieux les moins aisés que ce genre d'abus financier est plus fréquent. La raison, les victimes n'ont pas prévu suffisamment le financement de leurs vieux jours. Les personnes fortunées sont souvent des gens d'affaires qui ont su bien s'entourer. Pour prévenir les abus financiers, mieux vaut s'entourer de personnes de confiance, des professionnels qui seront veillés au grain. Mais c'est aussi au sein de la famille que la communication doit être optimale pour éviter qu'un des membres n'isole l'aîné et l'exploite. Si l'aîné n'est pas inapte, il est toutefois impossible de contester légalement ses décisions. Et quand il est inapte, si le mandataire tente à devenir l'abuseur, il ne faudra pas hésiter à saisir le notaire ou tout autre professionnel du droit pour protéger son proche. Maître Dany Lachance se rappelle avoir dû mettre en œuvre des procédures juridiques complexes pour faire remplacer une personne nommée comme mandataire au mandat de protection d'une aînée. Et la personne déboutée n'était autre que sa propre fille, qui avait sur elle une emprise inacceptable. Nous sommes passés par-dessus le conseil de famille pour pousser un remplaçant. Cela a été très compliqué. L'Association coopérative d'économie familiale Rive-Sud de Québec a publié un guide gratuit de prévention pour les aînés au titre explicite de point, je cite, « Mon fils Antoine me vole », disponible en PDF sur leur site ou donc en papier. Dans ce document qui souligne la charge émotive d'une situation où un enfant dépouille son propre parent, l'ACEF recommande de prévoir la rédaction d'une procuration. Celle-ci autorise une personne de confiance à agir juridiquement en notre nom. L'association suggère de nommer deux mandataires qui agiront conjointement. Cette précision permet de limiter le risque qu'une personne n'isole l'aîné. La procuration doit également prévoir que ce dernier puisse exercer un suivi des actes posés par les mandataires. La rédaction d'un mandat de protection, qui était anciennement nommé mandat en cas d'inaptitude, devrait reposer sur le même schéma. La différence, le mandat de protection s'applique le jour où l'on est reconnu inapte juridiquement. Il est alors quasiment impossible à la personne de révoquer ses mandataires, comme il est possible de le faire avec une procuration. Le mandat de protection peut lui aussi désigner deux mandataires avec des remplaçants si les nommés refusent ou sont dans l'incapacité d'agir. Le guide de l'ACEF, mentionné plus haut, donne d'ailleurs des modèles de procuration et de mandat de protection. Il est bien rare que la victime elle-même trouve la force de signaler son agresseur. C'est la vigilance de l'entourage, de l'aîné, la famille, les professionnels, qui permet d'identifier et de signaler un abus. C'est d'ailleurs cette démarche qu'accomplit Maître Lachance, comme d'autres notaires, quand elle voit un aîné aux prises avec une situation potentielle d'abus. Elle relate ainsi sa rencontre avec une dame qui semblait avoir appris par cœur ce qu'elle devait indiquer dans son testament, à savoir léguer tous ses biens à sa fille. La notaire a alors noté ses volontés, mais demandé un délai avant de faire signer le document. Quelques jours plus tard, je suis passée à l'improviste voir la dame qui habitait chez sa fille. Cette dernière, bien sûr, ne voulait pas que je la voie. J'ai fini par réussir à lui parler en tête à tête, et là, ses volontés avaient changé. Elle ne voulait plus léguer à sa fille, mais à ses petits-enfants. Comme elle ne se souvenait plus de m'avoir déjà rencontrée, j'ai refusé de procéder à toute signature du testament. Pour autant, la dame semblait bien traitée. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais sûrement appelé le CLSC pour qu'on envoie une travailleuse sociale. Celle-ci lui aurait alors rendu visite pour évaluer la situation. Les travailleurs sociaux ont même la possibilité d'émettre des commentaires si la personne nommée au mandat de protection, souvent l'abus est très subtil, mais il faut le dénoncer, c'est abominable de voir quelqu'un profiter d'un aîné. Alors, Attendez, j'ai perdu ma référence. Ah oui, elle est là. Que faire si je soupçonne un abus ? Il est parfois ardu de déterminer qu'il y a bien un abus, qu'on en soit victime ou témoin. Cette difficulté ne doit toutefois pas empêcher de parler de la situation. C'est toujours par l'isolement et dans le silence que les abus peuvent se perpétrer. Le service de police de la ville de Montréal recommande d'identifier une personne de confiance pour parler d'une situation d'abus. Cette personne de confiance peut tout à fait être un médecin ou une personne ressource du CLSC. De son côté, le protecteur du citoyen publie sur son site internet, et je le cite, protecteurducitoyen.qc.ca, une marche à suivre pour signaler de possibles abus sur un aîné, en tapant « abus aîné » dans le moteur de recherche. Et pour plus d'informations, il y a un numéro de téléphone peut-être très utile, c'est le 1-888-489-2287, 1-888-489-2287, et c'est « aide abus aîné », et là, quelqu'un est à l'écoute et peut agir donc si besoin. Voilà, donc c'était un article sur les abus, particulièrement auprès des aînés. Et c'est écrit donc par Didier Berthe dans le journal La Revue Le Bel Âge de mars 2018.
Très, très important. Bel article, Franceline. Et il faut appeler, hein? Il faut appeler
oui,
si
oui.
vous êtes témoin d'un abus.
Absolument.
Vis-à-vis d'un aîné, il faut le faire absolument. Eh bien, on va parler de technologie avec Roger dans quelques instants. Alors, de plus en plus, nos dirigeants utilisent cette application, en fait, la guerre des tweets.
C'est ça, des gazouillis.
Des gazouillis, en français.
C'est moins dur, gazouillis, que tweet. Je ne sais pas, c'est une question d'opinion. Avec Donald Trump et autres chefs d'État qui s'interpellent sur Twitter, le monde a-t-il encore besoin de diplomates? Plus que jamais, répond l'ex-ambassadeur britannique Tom Fletcher, qui enseigne aux diplomates de demain comment se battre là où se joue la guerre idéologique du 21e siècle. La guerre des tweets, c'est une interview essentiellement avec Tom Fletcher et c'est Carole Beaulieu qui l'a rencontré. Et elle écrit en introduction « Sont-ils des tweeplomates ou des diplotomates? L'usage hésite. Mais les diplomates du monde ont résolument pris le virage numérique. Ils sont sortis de leur langue de bois et de leur salle de réception pour activer des comptes Twitter. » Les ambassadeurs ont parfois plus d'abonnés que les grands journaux de leur pays. Nikki Haley, par exemple, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a plus d'abonnés Twitter que le Boston Globe ou le Chicago Tribune. Que font donc ces habitués de l'ombre dans la lumière crue des réseaux sociaux? Ce qu'ils ont toujours fait, affirme l'ex-ambassadeur britannique Tom Fletcher. Ils œuvrent pour la paix et la collaboration internationale, portant les messages de leur pays de la manière la plus appropriée. Ils se battent avec des idées, là où se joue la guerre idéologique du 21e siècle, entre ceux qui veulent vivre ensemble et ceux qui veulent bâtir des murs, et ça joue dur. Tom Fletcher, 42 ans, a été l'un des premiers diplomates britanniques à utiliser Twitter, alors qu'il était ambassadeur au Liban de 2011 à 2015, parce qu'il critiquait parfois le président syrien Bachar al-Assad. Il a reçu des menaces de mort et a été la cible de trolls russes, le président russe évidemment soutenant la Syrie. De son odyssée en ligne et de ses années comme conseiller auprès de trois premiers ministres britanniques, l'ex-diplomate a tiré le livre « The Naked Diplomat » rempli d'anecdotes savoureuses sur la conduite du pouvoir. Tom Fletcher a quitté les affaires étrangères en 2015 et signé à l'automne 2017 un rapport sur les façons dont les technologies peuvent aider les Nations unies à relever les défis du 21e siècle. Il enseigne aussi à l'Emirate Diplomatic Academy, l'école de diplomatie de cette monarchie autoritaire du Golfe Persique, ouverte en 2015. Si nous ne voulons pas que nos enfants vivent derrière des murs, il faut nous battre maintenant avec nos mots, nos idées et nos images, et engager la conversation avec ceux qui ne pensent pas comme nous, aussi difficile que cela soit. Question posée par Carole Beaulieu. Le monde a-t-il encore besoin de diplomates, les chefs d'État comme le président Trump et d'autres s'interpellent par Twitter. Ce n'est pas la première fois qu'on prédit la mort de la diplomatie. Quand les chefs d'État ont commencé à se parler au téléphone, à prendre l'avion pour se voir, à s'envoyer des courriels, des gens ont dit que c'en était fini des diplomates. Pourtant, ils sont encore là. Le numérique est un outil. Une certaine forme de diplomatie disparaîtra, celle d'un groupe se rencontrant dans des salons feutrés pour discuter des affaires du monde, coupe de champagne à la main. La diplomatie qui aura de l'influence sera celle qui saisira l'occasion offerte par la révolution numérique. Et comment cela se fera-t-il? La diplomatie a toujours été le lubrifiant dont le monde a besoin pour rester en paix au moment de grands changements, quand des empires en détrônent d'autres, par exemple. Et nous sommes à l'aube d'une telle époque. La Chine va dépasser l'Amérique d'ici la fin du siècle. Les humains auront vu plus de changements technologiques au cours des 43 précédents. Et cela se produit alors que les États-nations s'affaiblissent, que les diplomates en tant que représentants des États-nations s'affaiblissent. Pourtant, ils sont plus nécessaires que jamais. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? L'automatisation. Aucun État n'est prêt. La structure internationale est encore moins. Pensez aux drones militaires. 200 leaders économiques mondiaux réunis récemment aux Nations Unies à New York pour une conférence sur les répercussions de la technologie au 21e siècle ont demandé des règles aux leaders politiques. Quelles limites faut-il mettre à ces armes pour protéger l'humanité? Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Ceux qui y travaillent voudraient une déclaration un peu comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui déterminerait les règles du jeu. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais qui, au 21e siècle, peut prendre cette décision et l'imposer au monde? Il y a 2 siècles, on aurait réuni les 5 plus puissantes nations à Vienne et pendant 3 mois, il y aurait eu des banquets où elles auraient démêlé tout ça. Aujourd'hui, si les 5 membres du Conseil de sécurité tenaient une conférence sur l'intelligence artificielle, le reste du monde ferait fi de leurs conclusions. Alors qui va décider? Elon Musk de Tesla? Mark Zuckerberg de Facebook? Google? Est-ce que les grandes entreprises technologiques rédigeront cette nouvelle convention de Vienne pour le monde numérique? C'est au secrétaire général des Nations Unies de lancer la discussion et de réunir tous les acteurs, les villes, les fondations, les organisations non gouvernementales. Nous avons réussi autour de la lutte contre les changements climatiques. Il faut le faire pour la technologie. Alors, le texte est pas mal plus long. Je vous en lis un autre extrait, si j'ai le temps. Mm-hmm. Quelle est la plus grande menace à la paix aujourd'hui? C'est la question posée par Carole Beaulieu et M. Fletcher de répondre. Les changements climatiques. Ce sera une grande source de conflits à cause des migrations massives que cela déclenchera. Au Liban, un habitant sur 3 est un réfugié. Où cela s'arrêtera-t-il? Même les plus compatissants posent la question. Politiquement, ce sera difficile de faire face. Mais un plus grand danger encore est la perte de curiosité, l'oubli de l'émerveillement que génère la rencontre de gens différents de nous. Cette perte de curiosité va nous rendre apathiques et moins ingénieux. Un chapitre de votre livre s'intitule « Assange, Snowden and the Death of James Bond ». Demain, y aura-t-il encore des James Bond? C'est la question qu'on pose. Alors, il répond « Les nouveaux espions ont des allures de geeks. Ils sont derrière des ordinateurs. Bien sûr, il faudra toujours des bottes sur le terrain et un brin de panache. Il y a toujours de la place pour James Bond. Mais la question cruciale est de savoir comment nos sociétés s'adapteront à Internet pour maximiser les libertés et la transparence tout en préservant la sécurité. Le président de l'Estonie a appelé de ses voeux un John Locke de l'ère numérique. John Locke, c'est un philosophe du 17e siècle, précurseur du libéralisme. Nous avons besoin d'une Magna Carta d'Internet qui garantirait des droits, limiterait la collecte d'informations non autorisées par l'État et les entreprises. Nous en sommes encore bien loin. » Et à la fin, on donne le nombre d'abonnés de tweet, sur le tweet, les abonnés tweet. Le leader, Donald Trump, président des États-Unis, a 47 millions, ou presque 48 millions d'abonnés. Le pape, 40 millions quand même. Modi, le président de l'Inde, 40 millions aussi. Erdogan, plutôt, le président de la Turquie, 12 millions. D'autres, alors, hey, Trump est en tête de liste.
Ah, vous voyez l'impact de tout ça, hein, quand M. Trump envoie un tweet.
Tous les matins, on en parle.
À tous les matins, il en envoie plusieurs.
Matin, on en a entendu parler encore. Il vise le procureur là, de la commission qui enquête sur l'influence des Russes.
Merci Roger. Eh bien, moi, je vous parle tout de suite après la pause musicale de 10 façons de remplacer le sucre dans vos desserts. Question santé.
Brûle, armée d'amour, la passion tombe. se recouse. Victime des fantaisies, la moindre résistance est impossible. Tes jours sont comptés, personne ne peut s'échapper. La raison poursuit ses habitudes, rien ne rattrape le temps perdu. Ton âme est ailleurs, tu es l'esclave de ton cœur.
On vient d'entendre Michel Pagliaro et la pièce L'Espion.
Merci beaucoup. Eh ben, voulez-vous avoir 10 façons de remplacer le sucre dans vos desserts? Ben, je vous les donne tout de suite.
On écoute.
Okay. Et c'est un article que j'ai trouvé sur le blog de passeportsanté.net, site que j'aime beaucoup. Si vous pouvez aller voir, c'est très, très intéressant. Eh bien, on dit qu'on ne cesse de nous le répéter. Notre consommation de sucre est bien trop élevée. Pas question pour autant de se priver de nos desserts favoris, naturellement. Nombreux substituts au sucre en poudre blanc ou du sucre brun existent et vous permettront de réaliser des desserts tout aussi gourmands. Et pour des raisons de santé ou parce que vous faites attention à votre ligne, vous avez rayé peut-être le sucre de vos menus et l'idée d'un dessert sans sucre ne vous réjouit guère. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. Il existe quantité de solutions pour remplacer le sucre dans vos desserts et en voici 10. Premièrement, les fruits. Les fruits sont naturellement sucrés et excellents pour la santé, à moins que vous suiviez un régime strict sans sucre interdisant même les fruits les plus sucrés. Ben, régalez-vous donc d'une salade de fruits de saison de préférence qui seront bien plus savoureux. N'hésitez pas à associer des fruits selon votre envie et à apporter de la couleur. On dit que le plaisir des yeux participe largement à celui du palais. Vous avez des bananes, entre autres oubliées, qui commencent à devenir un peu trop mûres? Ben, c'est parfait. Plus elles noircissent, plus elles seront naturellement sucrées. Et on les place dans un gâteau, en remplaçant le sucre par une banane bien mûre écrasée, en tarte ou tout simplement en compote. Les fruits seront votre meilleur allié. On parle aussi du fructose en poudre, on parle aussi du miel. Le miel est l'un des plus anciens produits sucrés connus. Il a un pouvoir sucrant et un goût sucré supérieur à ceux du sucre. Le miel sucrera à merveille vos crêpes, vos yogourts, mais vous pouvez également remplacer dans vos desserts 100 g de sucre par 50 g de miel. On parle aussi de l'aspartame, qui est aussi un bon compromis. On dit que l'aspartame possède un pouvoir sucrant 180 fois supérieur à celui du sucre. Malgré le fait qu'il y a des études sur le cancer, ben on peut quand même remplacer en petite quantité. Et on propose de remplacer 100 g de sucre dans une recette par 10 g d'aspartame. Imaginez le pouvoir. On parle aussi en cinquième position, le stevia. On parle aussi du sirop d'érable, qui est de chez nous. En fait, c'est un produit à partir de la sève de certains érables de l'Amérique du Nord. Principalement, je le dis chez nous, le sirop d'érable a un pouvoir sucrant 1,4 fois supérieur à du sucre, imaginez. On parle aussi du sirop d'agave. Le sirop d'agave est issu de la transformation de la sève de l'agave, une sorte de cactus poussant sur les volcans au Mexique. Et l'agave, on en trouve ici, contient une partie de fructose qui lui confère un grand pouvoir sucrant. Et son goût est neutre et son pouvoir sucrant est 3 fois supérieur à celui du sucre. Les arômes naturels, maintenant, on parle de vanille, de l'amande amère, de la fleur d'oranger, du citron ou encore café. Ils ne donneront pas de goût sucré à vos préparations, mais permettront de faire oublier à votre palais l'absence de sucre. Les liquides aussi, en gousse ou en zeste, les arômes naturels rehausseront à merveille votre salade de fruits, par exemple. Et pour plus de saveur, vous pouvez ajouter une goutte d'essence naturelle à fleur d'oranger, des feuilles de menthe. On parle aussi d'épices, de la cannelle, de la muscade, de beaucoup de produits comme ça. Et finalement, la purée de dattes. Les dattes sont naturellement très sucrées. Alors, on vous propose qu'il faut les utiliser en purée et qui remplacera le sucre facilement à poids égal. Alors voilà pour qu'est-ce qui est des petits trucs pour remplacer le sucre transformé. Naturellement, on parle de celui, le sucre blanc qui est transformé, qu'on mange peut-être en quantité industrielle et qu'il faudrait éviter le plus possible. On s'en va à la deuxième partie de l'émission où on aura des articles aussi intéressants les uns que les autres. À tantôt.
Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Un des grands classiques de la chanson, un des grands classiques de Charles Aznavour, un extrait de son album Entre deux rêves, paru en 1967, c'était bien sûr la pièce Emmenez-moi.
Ah, chanson qui nous balade, tout simplement. C'est vraiment intéressant. Franceline, deuxième sujet, en fait, deuxième article, on parle du milieu carcéral.
Pour les femmes.
Pour les femmes.
En 2018, oui. Mm-hmm. C'est le dossier du journal L'Itinéraire du 1er mars 2018 qui traite de ce sujet. Et je vais vous en lire quelques articles. Alors, en février 2016, le transfert de quelques 250 détenus de la prison Tanguay vers l'établissement Leclerc de Laval provoquait la colère et l'indignation. Critiqué pour sa sécurité excessive et son insalubrité, le bâtiment soulève encore aujourd'hui les passions de plusieurs groupes de pression. Plusieurs réclament des changements significatifs dans le traitement des femmes incarcérées, et plus particulièrement sur l'enjeu de la réinsertion sociale des détenus. Le service correctionnel de l'État, la société Elisabeth Frey, plusieurs voix lucides défendent leur point de vue, à savoir quel modèle est souhaitable pour les femmes judiciarisées. Alors d'abord, quel est le portrait des détenus ? Dans un récent rapport du ministère de la Sécurité publique du Québec, on apprend que la population correctionnelle féminine de la province est majoritairement blanche et francophone. Au Québec, les femmes constituent moins de 10% de la totalité des détenus. Sans surprise, les femmes commettent des délits généralement moins violents qui sont associés à l'administration de la justice, comme l'usage de faux, les parjures et entraves de toutes sortes. Aussi, bien que cela puisse leur arriver, elles ne sont que très rarement coupables d'homicides, de trafic d'armes et encore moins d'agressions sexuelles. Près de 30% d'entre elles ont des enfants au moment de leur délit. 50% ont des problèmes plus ou moins graves de santé mentale. Et surtout, près de 60% sont sans emploi au moment de leur admission en prison. Si la précarité des femmes est souvent corollaire de leur criminalisation, ce n'est rien en comparaison des conséquences néfastes que peut avoir leur condamnation sur leur entourage. Aussi, il est assez fréquent qu'elles vivent à leur sortie un phénomène de rejet particulièrement cruel de la part de leurs enfants, de leur famille ou de leurs amis. Elles se trouvent ainsi pénalisées, d'abord sur le plan relationnel par une perte complète de leur réseau, en plus d'être hypothéquées matériellement et psychologiquement. D'où l'importance de maintenir des programmes de réinsertion sociale. Et alors, dans ce chapitre-là, dans ce but-là, la société Elisabeth Frey propose une alternative au modèle carcéral québécois. En effet, la maison Thérèse Casgrain, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, héberge le seul centre de transition pour les femmes judiciarisées au Canada. Cet ancien couvent des filles de la sagesse a été acquis en 1992 par la société Elisabeth Frey du Québec, la SEFQ. Le lieu fait écho à l'histoire des communautés religieuses qui se sont longtemps occupées des détenus du début de la colonie jusqu'à la fin des années 50. Au Québec, dans les années 30, les délinquantes étaient soit destinées à l'internement psychiatrique, soit incarcérées avec les hommes dans des conditions lamentables, ou voués à l'itinérance. C'est autour des années 60, avec la laïcisation de l'État, que l'on voit naître un intérêt pour les femmes judiciarisées dans notre société. L'ouverture en 1964 de la prison Tanguay témoigne de ce nouvel intérêt pour les besoins spécifiques de détention des femmes. Puis, au début des années 80, inspirée par les mouvements féministes, s'amorcera enfin une véritable réflexion critique sur les enjeux liés aux femmes et de leur criminalité. Et c'est dans ce contexte de mobilisation sociale qu'est née en 1977 la société Elizabeth Fry du Québec. Cette ressource communautaire, dont la mission est exclusivement dédiée aux femmes incarcérées, opère 3 centres de services au Québec, un à Montréal, un à Québec et un dernier en Outaouais. Elle s'est donnée comme mandat de créer des services pour les femmes ayant des démêlés avec la justice afin de faciliter leur intégration dans la communauté. On dit « Nous proposons une alternative à l'incarcération car nous pensons que ce n'est pas nécessaire de mettre les femmes en cellule. Nos objectifs consistent essentiellement à prévenir la récidive, responsabiliser les contrevenantes et favoriser les habiletés qui leur permettront de développer leur potentiel », indique Ruth Gagnon, directrice générale depuis 35 ans de la société Elizabeth Fry du Québec. La maison Thérèse Casgrain est le siège social de la SEFQ. Elle procure de l'hébergement à une quarantaine de femmes de 18 à 65 ans en libération conditionnelle, sans égard à leur sentence ou à leur délit. En probation, ces femmes suivent sur une base volontaire un programme de réinsertion qui leur permettra de terminer leur sentence en milieu ouvert sans retourner en prison. Une équipe de 50 professionnels, thérapeutes et conseillères œuvre auprès des résidentes 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors je prends une toute petite pause et je vous reviens sur la réinsertion dans la compassion et l'écoute. Alors, l'architecture vétuste de la maison Thérèse Casgrain et le silence feutré de l'ancien couvent offrent un contraste avec les prisons conventionnelles. Dans l'ancienne chapelle, Mélanie, 20 ans, nous rejoint. Condamnée à 4 reprises pour trafic de stupéfiants, elle vient d'obtenir la permission de quitter l'établissement Leclerc de Laval afin d'adhérer au programme d'Elizabeth Fry. La prison, c'est un zoo, ça pue, c'est sale et la nourriture est moins bonne, dit-elle, que de la bouffe pour chiens. C'est la peur et la violence au quotidien. Tu prends ton trou, puis tu te tais. Ici, j'ai trouvé une écoute. Je ne vais plus jamais retourner en prison, dit-elle. Pas de barreaux, ni de gardiens, ni de barbelés. La présence des femmes est basée sur un lien de confiance réciproque avec les professionnels qui les accompagnent. Bien que l'endroit soit apaisant, ce n'est pas un lieu pour faire la fête. La menace de retourner en dedans est bien réelle. Aussi, les résidentes doivent se plier à un horaire précis, du lever au coucher. Elles ont un agenda quotidien dont elles doivent discuter avec leur intervenante désignée. Elles doivent prouver qu'elles font les démarches d'emploi en plus de rendre des comptes régulièrement à leur agent de probation. À la fin de la journée, il y a le couvre-feu obligatoire. Bref, elles doivent absolument démontrer leur capacité à s'autoréguler. On peut sortir chaque jour, ajoute Mélanie. J'ai pas bien le choix, j'ai trouvé un emploi. Ici, les filles sortent chaque jour sans surveillance. Et si tu veux aller te geler, tu peux. T'es laissé à toi-même, mais moi, je ne veux pas vivre un bris de conditions. Et ici, ils font tout pour te garder en dehors de la prison. Christine Champagne est directrice clinique de la SEFQ. C'est elle qui s'occupe du casting des futures résidentes de la maison de transition. Elle visite régulièrement la prison. En collaboration avec les services correctionnels, elle prépare un plan de sortie sur mesure pour chaque détenu qui obtient la permission de terminer sa sentence à la maison Thérèse Casgrain. « Mon travail, c'est de transplanter des fleurs », affirme-t-elle. Ruth Gagnon explique que, par ailleurs, que les femmes qui arrivent ici ont beaucoup de besoins qui sont antérieurs à leur judiciarisation. Pour les aider à s'en sortir, il faut cibler les priorités. Elles ont souvent une très mauvaise estime d'elles-mêmes et sont tourmentées par la honte. Une de nos premières tâches est de leur faire éviter l'autodénigrement. Il faut ensuite les encourager à développer des réflexes pour accéder à leur autonomie économique, à un logement et les aider à surmonter leur choc post-traumatique ou à combattre leur toxicomanie. C'est un processus d'essais et d'erreurs. Parfois, mais rarement, on se trompe et on doit renvoyer une fille en prison. Et ça, on n'aime pas ça. Toutes les détenues ne peuvent bénéficier de cette aide. La durée des peines influence l'adhésion au programme d'Elisabeth Fry. La majorité de la population carcérale féminine, soit 91% des détenues, ont de courtes peines de moins de 6 mois, qui ne sont souvent que de quelques jours. Elles n'adhèrent généralement pas aux activités de longue durée proposées par l'organisme ou d'autres ressources, ce qui explique que seulement 9% de la population carcérale féminine font appel à la SEFQ. Alors, si on tient compte des avantages que présente le programme de la SEFQ, soit un taux de réussite frôlant les 85% au tiers du coût de l'équivalent en institution, il y a lieu de se demander pourquoi les prisons pour femmes existent encore. Avant de parler de désinstitutionnalisation des prisons, il faut obtenir un consensus social là-dessus. C'est une question complexe dans une société, avance Ruth Gagnon. Actuellement, partout dans le monde, les mesures de sécurité sont en croissance. Dans ce contexte, il est plausible d'estimer que pour la population, faire le choix de la réinsertion en milieu ouvert pour les femmes serait trop osé, voire trop insécurisant. Les mesures législatives adoptées par le gouvernement Harper n'ont pas aidé la cause des femmes. Il a coupé le financement de plusieurs programmes qu'offrait la société Elisabeth Fry en milieu carcéral. Puis il a alourdi les peines et forcé les juges à donner des sentences plus sévères. Ces mesures sont accablantes pour les femmes judiciarisées. On observe par ailleurs que la population carcérale féminine a augmenté de près de 23% en 2015, une hausse qui survient paradoxalement au moment où l'on recense le plus bas taux de criminalité au pays depuis 15 ans, selon les derniers chiffres du ministère de la Sécurité publique. Alors voilà, est-ce qu'il y a des changements à l'horizon? Le gouvernement actuel proposait de faire des changements. Qu'en est-il? C'est timide, répond Ruth Gagnon. La lourdeur administrative du système judiciaire retarde considérablement la révision des lois. Il faut faire un travail de représentation et d'éducation à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Et franchement, aussi progressiste soit-il, il n'y a pas un parti politique qui va aller perdre des votes pour se porter à la défense de délinquantes. Ce sont des réformes qui ne sont pas populaires. On préfère, hélas, continuer de mettre de l'argent dans les prisons. Ce n'est pas un gouvernement seul qui va changer cela. Ça prend un consensus social. En effet, on est tous concernés. Pourra-t-on s'imaginer un monde sans prison? Non, dit-elle, mais moins et plus petite, assurément. Voilà, donc c'était un article rédigé par Manuel Foglia que j'ai trouvé dans le journal L'Itinéraire du 1er mars 2018.
Merci beaucoup, Franceline. Au retour, on va parler d'une ex-championne olympique, Sylvie Bernier, qui a écrit un article comme ambassadrice. Voilà. Alors, Roger, parlez-nous de votre article.
Oui, c'est André Lavoie qui a rédigé ce texte qui paraît dans l'édition du mois d'avril de sélection du Reader's Digest. Ambassadrice de vivre mieux, enfant, atteinte d'asthme sévère, Sylvie Bernier aurait dû rester assise pendant les cours d'éducation physique, mais contre toute attente, on lui prescrit des exercices. Elle va ainsi se découvrir une passion pour le plongeon qui la conduira jusqu'au podium olympique. Le 6 août 1984, aux Jeux de Los Angeles, elle devient la première Canadienne à remporter l'or au tremplin de 3 mètres. Elle utilise alors sa notoriété pour une noble cause, les saines habitudes de vie. Un combat que cette mère de 3 grandes filles mène avec conviction sur toutes les tribunes depuis plus de 30 ans, malgré une certaine inertie collective. Et pourtant, de moins en moins de personnes vivent dans la pauvreté ou la famine, la mortalité infantile est en baisse et l'analphabétisme recule. Question posée par André Lavoie. Vous affirmez que 87% des Québécois aspirent à un mode de vie sain et actif, mais selon le cardiologue Martin Junot, depuis 1985, on assiste à une augmentation de l'obésité et du diabète dans toutes les tranches d'âge et donc à une recrudescence des maladies cardiovasculaires. Sentez-vous qu'on est prêt à s'engager dans un véritable changement? Elle de répondre, transformer une norme sociale, c'est long. Et pour sensibiliser la population, ça prend des lois. Vers 17 ou 18 ans, quand je m'entraînais, on fumait dans les estrades des piscines. Il y a 40 ans, Les automobilistes étaient convaincus que la ceinture de sécurité était dangereuse. Il faut vraiment travailler sur les croyances, les comportements. Lors des dernières campagnes électorales municipales, on a parlé de qualité de vie, de santé, de transport collectif. On en est là. Qui aurait cru que les restaurants McDonald's allaient se retirer comme commanditaire après les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang? Mais n'éprouvez-vous pas un sentiment d'urgence? Selon le Regroupement pour un Québec en santé, entre 2010 et 2030, les coûts directs des principales maladies chroniques vont connaître une hausse de 72 % pour passer de 1,8 milliard de dollars à 3,1 milliard. Alors Sylvie Bernier répond, comme société, on ne peut plus continuer dans cette direction. On est allé droit dans le mur. L'augmentation des coûts a un effet sur tout et il faut cesser de prendre de l'argent dans les autres ministères pour l'injecter dans celui de la santé. En ce moment, la prévention accapare seulement 2 % du budget et le reste va aux soins. Pour moi, ce n'est pas ça la santé. Sortons les patients des hôpitaux. 70 % de toutes les maladies qui sont soignées actuellement, on peut les prévenir. Alors comment faire pour que les Québécois bougent plus et mangent mieux, puisque c'est là que réside la solution? J'étais asthmatique sévère et j'ai fait une carrière de plongeuse parce qu'un pneumologue très au courant des recherches, a recommandé à mes parents de me faire faire du sport 7 jours sur 7. Si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour tout le monde. Les gens en bonne santé, ceux qui l'ont perdu, les personnes handicapées, etc. Et il faut améliorer les environnements physiques et sociaux, surtout dans les milieux défavorisés et dévitalisés, grâce à des parcs, des piscines et des centres sportifs de proximité, et de faire en sorte que les enfants puissent marcher ou rouler à bicyclette en toute sécurité pour aller à l'école. Ce n'est pas normal qu'il soit plus facile de trouver une machine distributrice de boissons sucrées qu'une fontaine d'eau. Beaucoup envisagent la taxation de la malbouffe comme solution, tandis que d'autres sont convaincus qu'elle se fera surtout au détriment des personnes à faible revenu. Pendant longtemps, l'industrie du tabac a dit exactement la même chose. D'abord, la science est très claire. On peut faire un lien direct entre la consommation de boissons sucrées et l'obésité. L'argent recueilli, on peut l'investir dans la prévention, par exemple en rendant plus accessibles les fruits et légumes frais, par exemple dans les dépanneurs. Et si on construit des trottoirs et des pistes cyclables, le couch potato va peut-être se dire ben, « je devrais peut-être essayer ». Pour changer les choses, certains croient encore au pouvoir de la politique. Est-ce que des partis vous ont déjà pressenti? Alors Sylvie Bernier de répondre « oui ». Souvent. J'ai toujours refusé pour de multiples raisons, notamment familiales, de toute manière. Faire de la politique, ça voudrait dire devenir partisane. Et comment pouvons-nous être partisans lorsqu'on parle d'inégalité sociale, de santé de l'individu, de santé environnementale? Il faut exclure ces enjeux si importants des cycles électoraux. Je l'ai toujours dit, mon parti politique, c'est la prévention, et mon rêve, c'est de briser les silos pour qu'il y ait de la santé dans toutes les politiques. C'est pour cela que je parle à tout le monde. Sylvie Bernier s'exprime donc dans cet article signé par André Lavoie. C'est dans la sélection du Reader's Digest du mois d'avril.
Elle a tellement raison.
Oui.
Ah oui.
Tout à fait. Merci, Roger. Alors, un article que j'ai trouvé sur passeportsanté.net, encore une fois, et on dit « À quoi servent les probiotiques? » On écrit « La bonne santé de votre flore intestinale ne dépend pas que de l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qui s'y trouvent. Les probiotiques vous aideront à préserver ou à rétablir cette harmonie si un facteur extérieur est venu le rompre. Les probiotiques, appelés aussi microbiotes, sont des micro-organismes qui peuplent votre intestin et vous permettent un bon équilibre de votre flore intestinale. Quels en sont les bienfaits maintenant et où les trouver? Donc, on dit à quoi servent les probiotiques. Selon la définition de l'OMS, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé au-delà des effets nutritionnels traditionnels. À peine quelques heures après la naissance d'un nourrisson, tout son système digestif et son intestin en particulier se peuplent de milliards de bactéries. Chez un adulte, on compte presque 600 familles de bactéries différentes, soit près de 100 000 milliards de bactéries, et ça, on appelle ça la flore intestinale. Quand tout va bien, ces micro-organismes aident à la digestion et à l'élimination des aliments non désirables pour l'organisme. Tout se gâte quand survient un déséquilibre. Ce dernier peut être causé par la prise d'antibiotiques ou un voyage avec une tourista, entre autres en prime, appelée aussi diarrhée du voyageur. Pour rééquilibrer tout ça, la flore intestinale de bons champignons, la prise de probiotiques est alors conseillée. Des probiotiques dans les aliments, vous souffrez d'intolérance au lactose, de ballonnement, de flatulence. Vous souhaitez démarrer un traitement curatif et préventif de la diarrhée de votre enfant. Soignez une gastro-entérite, entre autres aiguë. Évitez les diarrhées liées aux antibiotiques. Soignez une allergie ou une intolérance alimentaire ou tout simplement renforcez votre système immunitaire. C'est peut-être le bon moment pour commencer une cure. Et comme vous le savez, tout est dans la nature. Avant de se perdre dans les rayons des pharmacies ou des herboristeries, avez-vous pensé à adapter votre alimentation pour favoriser le recensement de la flore intestinale? Les laits fermentés et les yogourts sont excellents car ils vous offrent des lactobacillus bulgarius, entre autres. La choucroute, qui est français, hein, Franceline, la levure de bière, la sève de bouleau, les légumes fermentés, les carottes. Les betteraves aussi. Le radis et poivron à consommer cru sont aussi bénéfiques pour votre flore intestinale. Le pain au levain naturel, le kéfir et les produits japonais, entre autres le tamari, le soju, le miso, le tempeh, contiennent aussi des probiotiques. On dit que c'est pour tous les âges. Les probiotiques peuvent être ingérés à tous les âges car ils sont sans effet secondaire, bien au contraire. Il est possible que vous ayez besoin de renforcer la présence de l'une ou l'autre de ces familles de bactéries aux fonctions bien différentes. Dans ce cas, l'avis d'un spécialiste est indispensable. Faites-vous conseiller pour mieux cibler les aliments ou les compléments alimentaires nécessaires. Sachez également que chez les enfants, les probiotiques permettent d'offrir une meilleure réponse aux vaccins car ils améliorent la réaction immunitaire. Certains parents témoignent aussi de la diminution des poussées d'eczéma atopique chez leurs bambins grâce à la prise de probiotiques. Et dernière recommandation, attention aux produits en vente en pharmacie. On trouve de tout et dans de larges fourchettes de prix. Là aussi, faites-vous conseiller avant d'entamer une grande cure en fait, de probiotiques. Alors voilà l'article que j'ai trouvé sur passeparsanté.net.
Alors, quelques brefs peut-être. Et vous savez, la semaine dernière, je vous avais parlé d'une poubelle particulière dans l'arrondissement du centre-sud. Et là, j'ai trouvé dans l'arrondissement du sud-ouest, décidément les arrondissements rivalisent d'idées, une poubelle, une quinzaine de nouvelles poubelles intelligentes fonctionnent grâce à l'énergie solaire et cela améliore l'efficacité de la gestion des déchets donc dans l'arrondissement du sud-ouest. Au premier coup d'œil, les poubelles Big Belly ressemblent à n'importe quelle autre. En réalité, elles peuvent contenir 5 fois plus de déchets et de matières recyclables que les poubelles classiques, contribuant à éliminer les situations de débordement. Cela est rendu possible grâce à un système de compression des déchets. La poubelle s'alimente en énergie. La poubelle s'alimente en énergie par l'entremise de panneaux solaires installés directement sur le dessus. Les poubelles Big Belly sont dites intelligentes puisqu'elles sont connectées entre elles et envoient un signal aux employés de la ville dès qu'elles sont remplies. Cela permet donc au col bleu de venir et de plus rapidement pour éviter les débordements. Les 15 poubelles ont été installées à l'automne dans les lieux achalandés comme les alentours de la station Lionel-Groux, les abords du marché à Twater, la rue Notre-Dame et le parc Angrignon.
Merci beaucoup, Franceline. Voilà. Roger, une petite nouvelle aussi.
Wash, un savon. Les pains de savon ont de moins en moins la cote auprès des Américains de 18 à 24 ans, car ils craignent que ceux-ci ne soient couverts de germes. Or, la vaste majorité des recherches ont prouvé que les germes présents sur les savons n'adhèrent pas à la peau. Qu'à cela ne tienne, les Américains se tournent vers le savon liquide. Résultat, plus de 270 millions de bouteilles de plastique supplémentaires ont été mises au rebut ou au recyclage aux États-Unis en 2015.
Merci beaucoup, Roger. Merci à vous deux pour cette magnifique émission encore une fois. Mon nom est Claude Blas, Franceline Nieuviard, Roger Roy. On vous souhaite une excellente semaine et restez à l'écoute dans quelques instants. Il y a l'émission Le quotidien des quotidiens qui suit. Et surtout, si vous voulez avoir cette émission en rediffusion, eh bien, elle l'est en toute pendant la journée, hein, une heure précise pendant la journée. Et cette émission aussi se retrouve à tous les jours de la semaine, dès 9h le matin, en direct avec différents collaborateurs. On vous souhaite une excellente semaine.